Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1974, Geneviève Génari consacrait une série de 10 émissions à Simone de Beauvoir. On la connaît mal, expliquait-elle dans le premier volet, parce que trop de clichés se sont superposés à son vrai visage et la masque. Il y a une Simone de Beauvoir insoupçonnée, il y a une femme derrière cet écrivain. À travers un choix de textes extraits de ses récits autobiographiques et de ses romans, lus pour l'occasion par Emmanuel Riva et Patrice Galbeau, les émissions donnaient à entendre quelques traits de sa personnalité et de son écriture. Après avoir dans les deux premiers volets évoqué l'enfance et l'adolescence de Simone, nous la retrouvions dans les deux suivants au lendemain de la guerre, facétieuse, aventurière et commençant à mener pleinement cette vie dévorante qu'elle disait avoir rêvée à l'âge de 20 ans. Simone de Beauvoir insolite, troisième et quatrième volet, diffusé pour la première fois sur France Culture les 28 et 29 janvier 1974.
Nous avons appris à connaître une petite fille à la sensorialité très développée, une jeune fille anticonformiste, une amoureuse comblée, une jeune femme folle de la nature. Mais c'est la vie tout entière que Simone de Beauvoir désire appréhender avec le même appétit robuste que la nature ou l'amour. Que sa curiosité intellectuelle soit infinie, on le sait par ailleurs. On le sait même trop, car on risque d'oublier des réalités toutes simples, comme celle de sa boulimie touristique, comme celle de l'énorme gaieté du couple qu'elle forme avec Sartre, tout au moins jusqu'à la guerre. S'il y a une Simone de Beauvoir insolite, c'est bien celle que j'appellerai la facétieuse. Dans La force de l'âge, par exemple, elle raconte une farce faite à Paul Guth avant la guerre et qui n'est pas du meilleur goût, même si, comme le dit Simone de Beauvoir, la victime se porte bien. Cette bonne grosse gaieté est parfois à la limite de la vulgarité. Mais elle peut aussi se montrer extrêmement spirituelle, comme dans cette scène vécue qui se passe tout de suite après la guerre.
Un soir, j'allais avec Sartre et les Lyris chez Dora Maar qui peignait de bons tableaux. Elle croyait aux tables tournantes, pas nous. Elle proposa un essai. Nous posâmes nos mains sur un assez volumineux guéridon. Rien n'arriva, ça devint bientôt fastidieux. Soudain, le meuble se mit à frémir, à bouger, à courir. Nous courûmes après lui, les mains toujours unies et plaquées dessus. L'esprit fit savoir qu'il était le grand-père de Sartre. La table épela à petits coups le mot « enfer ». Pendant près d'une heure, ruant sur place ou tournoyant, elle nous voit tous au feu éternel et elle raconta sur Sartre des faits que nous étions lui et moi seuls à connaître. Dora exultait. Les Lyris et Sartre riaient de stupéfaction. À la sortie, je leur dis que c'était moi qui avais manœuvré la table. Comme j'avais hautement parié qu'elle resterait immobile, personne ne m'avait soupçonné.
Cela, c'est la réalité. Mais la fiction créée par Simone de Beauvoir n'est pas toujours austère non plus. Et on trouve dans L'Invité, par exemple, une scène extrêmement comique où deux des héros, Pierre et Xavier, se livrent devant Françoise à une sorte d'exhibition. Pierre mâchant du tabac. Il faut se rappeler que Pierre représente Sartre, ce Sartre qui, jeune homme, s'amusait à imiter l'éléphant de mer du zoo de Vincennes et qu'on reconnaît dans ce passage de L'Invité.
Depuis un moment, Pierre fixait le fond de son verre. Ses muscles s'étaient affaissés, ses yeux étaient troubles et une niaiserie douloureuse avait envahi ses traits. « Vous ne vous sentez pas mieux depuis tout à l'heure ?» dit Xavier. « Non, dit Pierre, non. Le pauvre Pierre ne se sent pas mieux. » Ils avaient commencé le jeu dans le taxi. Françoise se divertissait toujours à le voir improviser des scènes, mais elle n'acceptait pour son compte que des emplois secondaires. Pierre n'est pas pauvre. Pierre se porte très bien, dit Xavier avec une douce autorité. Elle avança tout près du visage de Pierre, un visage menaçant. N'est-ce pas que vous allez bien ?
Oui, je suis très bien, dit Pierre précipitamment.
Alors, souriez, dit Xavier. Les lèvres de Pierre s'aplatirent et se tirèrent presque jusqu'aux oreilles. En même temps, le regard s'affola, un visage de torturé se crispait autour du sourire. C'était étonnant tout ce qu'il pouvait faire de sa figure. D'un coup, comme si un ressort eût craqué, le sourire retomba en une moue pleurarde. Xavier étouffa un rire, puis avec le sérieux d'un hypnotiseur, passa la main devant le visage de Pierre, de bas en haut. Le sourire se reforma. D'un air sournois, Pierre passa son doigt de haut en bas devant sa bouche, et le sourire se défit. Xavier se mit à rire aux larmes. « Quelle méthode employez-vous au juste, mademoiselle ?» dit Françoise. « Une méthode à moi, » dit Xavier d'un air modeste, « un mélange de suggestion, d'intimidation et de raisonnement. »« Et vous obtenez de bons résultats ?»« Étonnant, » dit Xavier. « Si vous saviez dans quel état il était quand je l'ai pris en main. » »« C'est vrai qu'il faut toujours considérer le point de départ, » dit Françoise. Pour l'instant, le malade avait l'air bien atteint. Il mâchait avidement le tabac, même sa pipe, comme un âne à sa mangeoire. Ses yeux étaient exorbités et il mâchait réellement le tabac. « Grand Dieu !» dit Xavier avec horreur. Elle prit une voix posée. « Écoutez bien, » dit-elle. « On ne doit manger que ce qui est comestible. Le tabac n'est pas comestible. Donc vous faites une faute en mangeant du tabac. » Pierre écouta docilement. Puis il recommença à manger dans sa pipe. « C'est bon, » dit-il d'un air pénétré. « Faudrait tenter une psychanalyse, » dit Françoise. « Est-ce que dans son enfance, son père ne l'aurait pas battu avec une branche de sureau ?»« Pourquoi ça, » dit Xavier. « Battu ? Passé à tabac ?» dit Françoise. « Il mange le tabac pour effacer les coups. » Le tabac est aussi la moelle du sureau qu'il détruit par une assimilation symbolique. Le visage de Pierre était en train de changer dangereusement. Il devenait tout rouge. Ses joues se gonflaient, ses yeux s'injectaient d'une buée rose. « Ce n'est plus bon, » dit-il, d'un ton courroucé. « Et c'est ça, » dit Xavier. Elle lui prit la pipe des mains. « Oh !» « Oh !» dit Pierre, il regarda ses mains vides. « Oh !» dit-il dans un long gémissement. Il renifla et soudain des larmes coulèrent sur ses joues. « Oh ! Je suis malheureux !»« Vous me faites peur, » dit Xavier. « Arrêtez !»« Oh ! Je suis malheureux !» dit Pierre. Il pleurait à chaudes larmes avec un terrible visage infantile. « Arrêtez !» dit Xavier, dont les traits s'étaient contractés de peur. Pierre se mit à rire et s'essuya les yeux. « Comme tu serais un idiot poétique, » dit Françoise. « On pourrait aimer d'amour un idiot qui aurait une pareille figure. »
La vie des Sartres est loin d'être une vie austère. On peut dire aussi que pour eux, voyager n'est pas le plus triste plaisir de la vie. Personne, peut-être, parmi les jeunes professeurs de l'avant-guerre, n'a voyagé autant qu'eux. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Maroc et le Maroc espagnol, l'Europe centrale, Londres et l'Allemagne, tout cela avant 1939. Pour Simone de Beauvoir, visiter. C'est manger des plats exotiques, c'est faire tous les musées, les bars, les quartiers louches et jusqu'aux hôpitaux. Voyager, c'est aussi accepter d'avoir faim ou soif, c'est se perdre, au propre ou au figuré. C'est même avoir peur et vivre dangereusement. Toute sa vie, elle a accepté et peut-être cherché le risque, celui d'être volée ou violée, celui des pannes d'avion ou des accidents d'auto. Le plus souvent, elle voyage avec Sartre, en tout cas presque jamais seule. Un des seuls témoignages sur un voyage qu'elle ait accompli seule, en Tunisie, en 1946, nous montre Simone de Beauvoir dans un rôle qui lui convient, celui de la voyageuse solitaire et presque de l'exploratrice. Elle va du sud tunisien au sud algérien.
L'oasis, d'abord, me déçut. Je marchais entre des murs de terre, au fond de chemins boueux, et, sauf des palmes au-dessus de ma tête, je ne voyais rien. Et puis, je me suis faufilé dans les vergers et j'ai connu la gaieté des fontaines parmi les arbres en fleurs. Les jardins de Nefta étaient plus tendres encore. Il y avait au flanc de la Grand Place un hôtel charmant. Sur les livres d'or, Gide avait écrit « Si j'avais connu Nefta, c'est elle, plutôt que Biskra, que j'eusse aimée. » Les dunes ondulaient à perte de vue tout autour de moi et je me suis demandé « Pourquoi est-ce si beau ? » Ce sable à l'infini suggérait un monde lisse et sûr, coulé de sa surface à son noyau dans une seule substance. Un jeu délicieux de courbes et de lumières s'exhalait comme une musique de la sérénité de l'un. Je me suis promené au clair de lune d'Elwed. Le sol était creusé de vastes entonnoirs où s'engloutissaient les jardins. De loin, c'était doucement fantastique, ces cimes de palmiers à fleurs de terre. Je ne me lassais pas de contempler la calme monotonie des hautes vagues immobiles.
Une des villes auxquelles Sartre et Simone de Beauvoir reviennent toujours le plus volontiers, presque tous les ans, c'est Rome. Rome plaît à Simone de Beauvoir parce qu'elle lui ressemble. Par ce mélange de luxuriance et de sagesse, de passé, de présent, d'art et de vie et de mort. Dans La force de l'âge, à propos d'Athènes, elle a écrit que la beauté se raconte encore moins que le bonheur. Mais, à propos de Rome, je crois qu'elle a su raconter la beauté.
Même lorsque ses briques brûlent au feu de Ferragosto, que le bitume fond sur les avenues désertes, où se dresse solitaire, inutile, un agent casqué de blanc, nous nous y sentons à notre aise. Cette grande cité remuante, encombrée, évoque encore la bourgade fondée par Romulus. On devrait bâtir les villes à la campagne, l'air y est plus sain, disait un humoriste. À Rome, je suis à la campagne. Pas d'usine, pas de fumée. On n'y rencontre jamais la province, mais souvent dans ses rues, sur ses places, la rudesse et le silence des villages. Le vieux nom du peuple où les clivages s'abolissent convient aux gens qui, le soir, dans le Trastevere ou sur le Campo dei Fiori, à la lisière du vieux ghetto, s'attablent aux terrasses des marchands de vin devant des carafes de Frascati. Les enfants jouent, les plus petits dorment, apaisés par la fraîcheur de la rue, sur les genoux de leur mère, et des voix montent impétueuses dans l'air où flotte une fragile gaieté. On entend les pétarades des Vespas, mais aussi le chant d'un grillon. Rome offre une chance encore plus rare. On y goûte à la fois les bouillonnements d'aujourd'hui et la paix des siècles. Il y a bien des manières de mourir, tomber en poussière comme Byzance, se momifier comme Venise, où c'est moitié l'un, moitié l'autre, des pièces de musée parmi des cendres. Rome dure. Son passé vit. Des gens habitent le théâtre de Marcellus. La Piazza Navona est un stade, le forum un jardin. Entre les tombeaux et les pins, la Via Appia conduit encore à Pompéi. Aussi n'a-t-on jamais fini de la découvrir. Du fond des âges, quelque chose paraît à neuf dans la fraîcheur de chaque instant, quelque chose qui m'est toujours délicieux. Classique et baroque, calmement extravagante, Rome unit la tendresse à la rigueur. Nulle afféterie, nulle langueur, mais jamais de sécheresse ni de dureté. Et quelle désinvolture! Les places sont irrégulières, les maisons bâties de guingois. Un campanile roman voisine avec un clocheton en forme de gâteau de noces, et de ses caprices naît une harmonie. Doucement bombée, délicatement évasée, les esplanades les plus monumentales échappent à la solennité. Les lignes des édifices, ici une corniche, là l'arête d'un mur, s'infléchissent et tournoient en brisant l'immobilité sans en gâcher l'équilibre. Parfois s'impose la sévère symétrie d'un dessin, mais l'austérité en est assouplie par le moelleux des lignes, par les ocres, les roues recuits et patinés qui les revêtent. La lumière fait vibrer la pâleur monacale du travertin. Des herbes poussent entre les orteils de marbre. Rome. L'artifice et la vérité se confondent. Blanche et plate, une estampe du 18e arrête le regard. Elle s'anime. C'est une église, un escalier, un obélisque. Partout, j'aperçois des décors de théâtre qui trompent merveilleusement mes yeux. Et puis non, ils ne mentent pas. Les balustrades et les rocailles, les terrasses et les colonnes sont réelles. Un soir, à travers des perspectives compliquées, nous avons vu, comme à l'intérieur d'un porte-plume souvenir, un simulacre de rue où marchaient, minuscules, des simulacres d'hommes. C'était tout près de nous, une rue et des hommes. Rome. À chaque tournant, à chaque carrefour, à chaque pas. Un détail m'accroche. Lesquels choisir ? Parmi des verdures, au fond d'une cour, une horloge sombre avec un double balancier horizontal, aigu et menaçant comme un conte de Poe. Près du corso, le baril de pierre où viennent boire les amoureux. Les dauphins pathétiques qui se pressent place du Panthéon, contre les tritons aux joues gonflées d'eau. Et toutes ces petites maisons avec leurs cours et leurs jardins, bâties sur le toit des grandes. Rome. Ses coquilles, ses volutes, ses conques et ses vasques. Le soir, la lumière change l'eau des fontaines en aigrette de diamants, tandis que la pierre clapote liquide sous le ruissellement des reflets jaspés. Dans le velours du ciel nocturne, les toits, couleur de soleil mourant, découpent des plates-bandes d'étoiles. Au Capitole, on respire une odeur de pin et de cyprès qui me donne envie d'être immortel.
C'était Simone de Beauvoir Insolite, troisième volet, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 janvier 1974. Tout de suite, le quatrième épisode de cette série, diffusé le lendemain.
Au bout du voyage, ce qu'on rencontre, si on le veut bien, si on le veut vraiment, c'est l'aventure. Sartre et Simone de Beauvoir ne voyagent pas en touristes, mais en intellectuels, cela va sans dire. En chercheurs, mais aussi en aventurier, si l'on peut dire. C'est elle qui va le plus loin dans cette voie.
Nous passâmes plus d'une semaine à Taman Rasset. On nous mit au courant de tous les potins qui circulaient entre la Gouate et le Hogar. Les Européens, égaillés sur plus de 1000 kilomètres au sein d'espaces vertigineux, se connaissaient, s'épiaient, se détestaient, se calomniaient, cancanaient avec autant de minutie et d'entrain que s'ils avaient habité un chef-lieu de canton. Ces papotages longue distance avaient pour nous beaucoup de saveur. La nuit qui précéda notre départ, il me tint réveillé très tard. Après le dîner, nous montâmes sur une terrasse pour voir la Croix du Sud. Ensuite, Sartre alla se coucher. Je restai debout au comptoir du bar, à boire et deviser avec le patron et avec deux camionneurs dont l'un était blond et beau comme Jean Marais à 20 ans. Ils parlèrent des gens que j'avais croisés depuis Gardaïa, et en particulier d'un taulier qui, moyennant le reste, offrait gratuitement aux chauffeurs bon souper, bon gîte. Chacun accusait gaiement l'autre d'avoir profité de l'aubaine. Et puis ils se sont mis à me raconter leur vie. Je m'y intéressais et la verdeur de leurs propos ne me gênait pas. À l'occasion, je pouvais parler le même langage qu'eux. Chacun de nous, le patron compris, offrit plusieurs tournées et j'allais me coucher hilar vers 3 heures du matin. Avec stupeur, j'entendis qu'on ouvrait ma porte. C'était le patron qui murmurait des offres. Je fus d'autant plus stupéfaite que sa femme avait l'air fort peu tolérante. Le lendemain matin, il se précipita vers moi avec un grand sourire et un panier d'oranges. C'était, à Taman Rasset, un fruit rare, et je compris qu'il achetait mon silence. Marché conclu, je n'avais jamais eu l'intention de faire un esclandre. Lui, il parla non de sa tentative de séduction, mais de mes débauches alcooliques et verbales. Ouvrant samedi soir, quelques jours plus tard, j'y trouvai une relation de cette beuverie. On disait que par mes propos de corps de garde, j'avais fait rougir les camionneurs. Il y avait d'autres gentillesses que j'ai oubliées, mais dont, sur l'instant, je m'inquiétais. Étant donné ma solidarité avec Sartre, quand on m'arrosait de purin, c'était lui autant que moi qu'on visait. Je m'en voulus d'avoir donné prise. Mais alors devais-je sans cesse vivre sur la défensive, surveiller mes propos et les verres que je buvais. L'avantage de notre position, me dit Sartre, c'est que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ce ne sera jamais pire que ce qu'on raconte.
Nous venons d'entendre un échantillon de ce qu'on raconte, enfin de ce qu'on racontait à l'époque. Il faut ajouter, et Simone de Beauvoir le dit très bien elle-même, que la liberté poussée à ce point donne prise à toutes les possibilités de racontars vrais ou faux. Après la libération, la vie de l'intelligentsia est une vie sans entrave, d'un anticonformisme parfois agressif. Simone de Beauvoir nous dit quelque part qu'elle sait très bien qu'il y a un conformisme de l'anticonformisme, mais qu'il est tout de même moins ennuyeux que l'autre. Ce n'est donc pas du tout le goût du scandale, contrairement à ce qu'on a dit. C'est le besoin d'être soi-même, absolument naturellement, qui la pousse. À travers ce que la force de l'âge raconte de ces années charnières qui vont de 1945 à 1950, nous découvrirons une Simone de Beauvoir se livrant encore, à 40 ans, à ces crises qu'on traverse généralement pendant l'adolescence. La crise de larmes qui suit la nuit blanche et l'alcool trop généreux. C'est une Simone de Beauvoir éternellement étudiante, étudiante existentialiste si l'on veut, mais étudiante arrivée, qui passe la nuit avec Sartre, naturellement, avec Koestler et sa femme, Camus et Francine Camus. Cette fois, il s'agit de Koestler.
Pendant les 3 ou 4 semaines qu'il passa à Paris, nous rencontrâmes souvent Koestler, généralement avec Camus. Ils étaient très liés. Un soir, nous dînâmes avec lui, Mamène, Camus, Francine, et nous allâmes dans un petit bal de la rue des Gravilliers. Puis il nous invita impérieusement au Scheherazade. Ni Camus ni nous ne mettions jamais les pieds dans ce genre de boîte. Koestler commanda des akouskis, de la vodka, du champagne. Le lendemain après-midi, Sartre devait faire à la Sorbonne sous l'égide de l'UNESCO une conférence sur la responsabilité de l'écrivain qu'il n'avait pas encore préparée. Nous comptions ne pas nous coucher tard. Mais l'alcool, la musique tzigane et surtout l'ardeur de nos bavardages nous firent perdre le contrôle du temps. Camus revint sur un thème qui lui était cher. Si on pouvait écrire la vérité. Koestler s'assombrit en écoutant les yeux noirs. Impossible d'être des amis quand on ne s'entend pas politiquement, nous dit-il d'une voix accusatrice. Tandis qu'il monologuait, Camus nous disait « Ce que nous avons de commun, vous et moi, c'est que les individus comptent d'abord pour nous. Nous préférons le concret à l'abstrait, les gens aux doctrines. Nous mettons l'amitié plus haut que la politique. » Nous en convînmes avec une émotion qu'exaltait l'alcool et l'heure tardive. À 4 heures du matin, nous avons été manger et continué à boire dans un bistrot des Halles. Koestler était nerveux. Par plaisanterie, par irritation, il a jeté à travers la table un croûton de pain qui atteignit Mamène en plein dans l'œil. Il s'est excusé un peu dégrisé. Sartre répétait d'un air hilar « Dire que dans quelques heures, je vais parler de la responsabilité de l'écrivain. » Et Camus riait. Je riais aussi, mais l'alcool m'a toujours incliné aux larmes. Et quand je me retrouvais à l'aube, seul avec Sartre dans les rues de Paris, je me mis à sangloter sur le tragique de la condition humaine. Comme nous traversions la Seine, je m'accoudai au parapet du pont. « Je ne comprends pas pourquoi on ne se jette pas à l'eau. » « Eh bien, jetons-nous, » dit Sartre, qui, par contagion, a versé aussi quelques pleurs. Nous sommes rentrés vers 8 heures du matin. Quand j'ai retrouvé Sartre à 4 heures de l'après-midi, son visage était ravagé. Il avait dormi 2 à 3 heures et il s'était bourré d'orthédrine pour préparer sa conférence. Je me disais, en entrant dans l'amphithéâtre bondé, s'ils avaient vu Sartre à 6 heures du matin.
On se croirait tout à fait dans un milieu d'étudiants. Mais la maturité et la célébrité sont tout de même là, et c'est à partir de ces années qu'une autre Simone de Beauvoir, plus inconnue certainement que cette grande dame de l'existentialisme, va se découvrir à nous. D'abord, je le répète, parce que la maturité donne le sceau à une personnalité. 1 an après cette innocente orgie, c'est déjà la rupture avec le passé qui s'annonce, la fin des excès, et Koestler a l'air d'un vieil enfant qui s'acharne à jouer quand les autres ont déjà fini.
Il tint à signaler au maître d'hôtel qu'il avait l'honneur de servir Camus, Sartre et Koestler. Sur un ton plus hostile que l'année passée, il reprit le thème « Pas d'amitié sans entente politique ». Pour se distraire, Sartre faisait à Mamène une cour trop ouverte pour être indiscrète et que désarmait notre commune ébriété. Soudain, Koestler jeta à la tête de Sartre un verre qui s'écrasa contre le mur. Nous levâmes la séance. Koestler ne voulait pas rentrer, et puis il avait perdu son portefeuille, il s'attarda dans le cabaret. Sartre titubait sur le trottoir en riant aux anges, quand enfin Koestler se décida à remonter à 4 pattes l'escalier. Il voulut reprendre sa querelle avec Sartre. « Allons, on rentre !» dit amicalement Camus en le poussant par l'épaule. Il se dégagea avec violence et frappa Camus qui voulut se jeter sur lui. Nous l'en empêchâmes. Laissant Kessler aux mains de sa femme, nous sommes montés dans la voiture de Camus. Convenablement imbibé, lui aussi de vodka et de champagne, il avait les larmes aux yeux. C'était mon ami et il m'a frappé. Il s'écroulait sur le volant, abandonnant l'auto à de terrifiantes embardées. Nous le redressions, dégrisés par la peur. Souvent, les jours suivants, nous avons évoqué ensemble cette nuit. Camus nous demandait avec perplexité « Croyez-vous qu'on puisse continuer à boire comme ça et à travailler ?»« Non. » Et en fait, pour tous les trois, ces excès étaient devenus très rares.
Oui, les excès sont devenus rares. C'est une Simone de Beauvoir beaucoup plus grave et beaucoup plus vulnérable que nous allons découvrir. À 40 ans, une femme a gagné ou perdu, dit Sartre dans Les Chemins de la Liberté à propos d'une de ses héroïnes. En fait, Simone de Beauvoir a gagné. Mais la femme qui émergera de la maturité sera transformée par l'épreuve. Ce n'est pas un hasard si presque tout arrive à Sartre et à Simone de Beauvoir dans ces années décisives. La gloire pour lui d'abord, puis pour elle un peu plus tard avec le deuxième sexe. Mais aussi la première crise de leur liaison depuis les temps lointains de Rouen en 1935. Cette fois, la tentation est double. Pour Sartre, celle de la charmante New-Yorkaise que Simone de Beauvoir désigne par une initiale dans ses mémoires, et de son côté à elle, une passion fulgurante pour Nelson Algren, qu'elle dépeindra dans Les Mandarins sous le nom de Lévis Brogan. On se doute bien que ce n'est pas sans problème qu'une semblable crise, une double crise, ait vécu au sein d'un couple qui a traversé 15 années communes. Ce qui nous reste à découvrir, et c'est à cela que je voulais en venir, c'est Simone de Beauvoir dans ce qu'elle a de plus féminin, de plus vulnérable et de plus douloureux. Le paradoxe veut que jamais elle ne fut autant femme que pendant les années où elle écrivit et publia son grand livre féministe. En fait, on l'a enfermée dans ce deuxième sexe. C'est de 1950 que datent les légendes, les images, les clichés les plus faux sur elle, et en particulier celui de l'intellectuelle pure et de la féministe reniant son propre sexe. En réalité, elle n'a pas connu le vrai drame de la femme écrasée, adultérée, aliénée, et ce n'est pas d'elle qu'elle parle dans le deuxième sexe. Nous venons de la voir en compagnie de Camus, de Kessler et de Sartre. Mais 20 ans auparavant, en 1929, elle était déjà la compagne de Sartre. Elle a toujours été traitée en égale, par Nizan, par Raymond Aron, par Merleau-Ponty. Simone de Beauvoir est d'abord une privilégiée, l'intellectuelle pleinement acceptée. Son père disait déjà d'elle, et ce n'était pas un reproche, Simone a un cerveau d'homme. Et elle décide, à 20 ans, de réussir ce programme qu'elle se fixe, avoir un cerveau d'homme, mais un cœur de femme. C'est de cette femme que nous parlerons dans la prochaine émission.
C'était Simone de Beauvoir Insolite, troisième et quatrième volet d'une série de 10 émissions proposées par Geneviève Génari et diffusée pour la première fois sur France Culture les 28 et 29 janvier 1974. Les textes de Simone de Beauvoir étaient lus par Emmanuel Riva et Patrice Galbeau et sont publiés aux éditions Gallimard. À suivre.